Histoire de terre.
La majeure partie des agriculteurs étant dépendants des primes et subventions, en fait, par ce biais-là, on leur fait faire ce qu'on souhaite. Les gens qui nous prennent nos produits savent comment on travaille.
Bienvenue dans Histoire de terre sur Radio Vassivière. Qu'ils se nomment paysans, agricultrices, exploitantes, éleveuses ou bergers, qui sont-ils? Chaque mois, nous vous proposons de passer une heure avec un homme ou une femme qui, d'une façon ou d'une autre, travaille la terre, ici sur la montagne Limousine, mais aussi ailleurs. Nous avons envie de les suivre sur leur terre, avec leurs bêtes, et nous échangerons avec eux sur la vie de paysan et tout ce qu'elle implique. Ce mois-ci, nous sommes allés rencontrer Pascal Durand, installé avec sa compagne Mélanie Jaubert sur la commune de Gensioux depuis une dizaine d'années. Ils élèvent 6 vaches et une quinzaine de chèvres pour fabriquer des produits laitiers qu'ils commercialisent localement. Depuis peu, ils ont décidé de quitter la commune de Gensioux. Pascal Durand nous explique les raisons de leur départ, ainsi que la façon dont il conçoit son métier de paysan.
On entend parler de la grande histoire agricole, du nombre d'agriculteurs qui est passé de 5 millions à moins de 500 000, des choses comme ça. Mais en fait, c'est l'histoire, c'est derrière ces grands chiffres, il y a l'histoire des gens. Et on est beaucoup à avoir été touchés par ça. Et donc voilà, je ne suis pas un néo-babos parce que j'ai 7 vaches et 15 chèvres. Mais voilà, pour dire, mes parents, mes grands-parents étaient agriculteurs du côté de mon père et du côté de ma mère dans le Maine-et-Loire. Il n'y avait pas de la place pour tout le monde, parce qu'il y avait les fermes qui s'agrandissaient. J'ai un oncle de chaque côté qui a repris la ferme. Donc mes parents sont allés s'installer plus loin. Ils se sont installés en Ardèche, au début en laitier. Ensuite, ils ont fait des produits laitiers en bio. Quand mes parents se sont séparés, la situation financière n'a pas été simple. Mes parents ont fait différents travaux. Et après, mon père et ma belle-mère ont voulu se réinstaller, sauf que les terres étant très chères là-bas, et quasiment impossible à trouver à louer, c'est comme ça qu'en 1991, ils sont venus s'installer sur le plateau de Mille Vaches, sur une ferme en location, en très mauvais état. Et à ce moment-là, ils se sont installés en brebis-viande, puisque les conseillers agricoles conseillaient brebis-viande. Sauf qu'en 92, les cours du mouton se sont cassés la figure. Donc ils ont commencé à s'enterrer financièrement. Après, il y a eu une laiterie qui cherchait à faire du lait, qui cherchait du lait de chèvre. Donc à ce moment-là, ils se sont reconvertis en lait de chèvre. Moi, j'avais fait une formation agricole, je cherchais à m'installer, je me suis dit pourquoi pas m'installer avec eux. Donc à peu près au début où ça commençait en chèvre. Et puis ça faisait que quelques années que j'étais installé avec eux, où la laiterie a fait faillite. Enfin, non, la première année, la laiterie a fait faillite et ça a été repris par le groupe Lactalis, qui est un des plus gros groupes laitiers mondiaux. Et donc au bout de 4-5 ans que j'étais installé, la laiterie a dit « vous êtes trop loin, ça coûte trop cher de venir chercher du lait de chèvre sur le plateau de 1000 vaches, on arrête, merci, au revoir ». Et moi je me suis retrouvé, j'avais des emprunts sur le dos, j'avais plus d'outils de travail, plus de commercialisation, puisque la ferme était trop petite pour faire de la viande, était trop grosse pour faire une petite structure. Et disons que ça m'a un peu vacciné de cette agriculture moderne où on est complètement dépendant du marché, des crédits, des primes, des subventions, de ces choses-là. Et j'avais quand même envie de faire de l'agriculture. C'est comme ça que... Enfin, à ce moment-là, j'étais un peu dégoûté. Mais après, j'ai fait différents travaux dans des scieries, en intérim, de nuit, à l'usine, toutes ces choses-là. Et aussi, ambiance bois, c'est comme ça que j'ai connu un peu le secteur Faux-la-Montagne, Gensioux. Et après, sur la construction écologique, à côté d'ici.
Et donc, à l'époque, ça vous avait dégoûté un peu de l'agriculture?
Voilà, ça m'a dégoûté de l'agriculture. Et en fait, quand j'ai rencontré Mélanie, elle avait été pas mal d'années à l'étranger, Mexique, Pérou et tout ça. Et elle avait envie de faire de l'agriculture, mais l'agriculture qu'elle avait connue là-bas. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit... Soit je m'en vais loin, soit si je repars sur l'agriculture, c'est une agriculture qui correspond à ce que je veux faire, au métier de paysan, et qui correspond aussi à quelque chose où j'en ai la maîtrise. Et c'est comme ça qu'on est parti sur, on a construit notre projet autour de cette idée-là, c'est-à-dire qu'on gardait la maîtrise de notre activité et qu'on faisait le métier qu'on avait envie de faire. C'est-à-dire que je n'avais pas envie d'être chauffeur de tracteur, je n'avais pas envie d'être, de faire ces choses-là. Moi, ce qui me plaisait, c'était le métier de paysan.
Et du coup, ce qui vous a motivé, c'était avant tout de pouvoir maîtriser les choses du début, jusqu'à la commercialisation, quoi.
Ben, en plus, ça, c'est pour moi la seule solution pour être indépendant aujourd'hui en agricole, c'est-à-dire que on maîtrise la production et la commercialisation. Parce qu'après, quand on fait de la viande, quand on fait du lait, on c'est jamais nous qui décidons du prix, de où on le vend, de à qui on le vend, de comment on le vend. Et la seule solution d'être maître de ça, c'est de vendre un produit fini. Et du coup, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus, pour garder cette indépendance-là. Et du coup, on est parti aussi sur les produits laitiers parce que il y avait de la demande locale. Avoir travaillé localement, on m'avait dit, toi, si tu sais faire ça, on serait intéressé pour avoir des produits laitiers en bio sur place. Et c'est comme ça qu'on est parti là-dessus et de manière très très progressive parce que quand j'ai arrêté la ferme avec mes parents, il me restait encore pas mal d'emprunts. J'ai réussi tant bien que mal à rembourser. On est arrivé ici, on avait 12 hectares, une caravane et pas un centime en poche et les emprunts pour payer les terrains en gros.
Donc ici, il n'y avait aucune construction, ni bâtiment agricole, ni habitation, ni rien.
Non, voilà, il y avait aucune construction, il y avait rien. Déjà, ça aurait pas été dans nos budgets, et en plus, c'était quasi introuvable. Donc, au début, on a cherché les terrains qu'on avait. En gros, il y avait deux îlots. Il y avait une huitaine d'hectares qui étaient très isolés à 2 kilomètres du village de la Villatte. Et 4 hectares qui étaient à proximité du hameau. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va essayer de voir s'il y a la possibilité de construire à proximité du hameau de la Villatte pour se raccorder au réseau d'eau, d'électricité. Alors quand on a vu que ce n'était pas possible sur nos terrains, de faire des échanges de terrains ou des achats de terrains, ou même de louer des bâtiments ou des maisons sur le hameau de la Villatte pour faciliter notre installation. Rien n'a été possible, il y avait pourtant des maisons vides, il y avait des bâtiments vides, mais chacun avait ses raisons de ne pas vouloir. Les échanges n'ont pas été possibles non plus parce que c'était souvent des indivisions, des choses comme ça qui étaient un peu compliquées. Donc partant de ce constat-là, on a regardé un peu la carte des terrains autour de la Villatte, on a dit d'une manière générale, si on veut faire des produits laitiers, il faut que les terrains soient à proximité du bâtiment. Autour de la Villatte, les gens souhaitent garder les terrains qui sont liés aux bâtiments et aux maisons, donc il n'y aura rien de disponible. Mais par contre, les terrains qu'on avait qui étaient plus isolés étaient entourés de terrains sectionaux qui, eux, n'étaient pas utilisés et donc potentiellement alloués. Ou potentiellement, c'est-à-dire peut-être que dans les 10 ou 15 ans qui viendraient, il y aurait des terrains qui seraient éventuellement à la vente plus facilement qu'autour du village. Et c'est comme ça que l'idée est partie de construire en site isolé. Pour mettre en place notre activité économique de vente de produits laitiers en vache et en chèvre.
Donc vous avez démarré avec 6 vaches, 8 vaches
Même pas au début. Au début, on était sur 5 vaches. On est parti sur 5 vaches, une dizaine de chèvres.
Donc ce sont des Vosgiennes.
Voilà, des Vosgiennes qui sont très très bien adaptées au climat et au sol d'ici. Puisque ici, en fait, faut s'adapter aux conditions, puisqu'on va pas adapter les conditions à nous, parce que c'est des conditions pas faciles. Et c'est des vaches qui font pas des 100 et des 1000 de lait quand elles mangent dans les tourbières et dans les sous-bois, mais elles restent en forme et elles font un peu de lait, là où d'autres animaux auraient du mal à se tenir en forme.
Et une quinzaine de chèvres.
Voilà, une quinzaine de chèvres. Et c'est pareil, les chèvres, on a misé sur la rusticité, pas sur la productivité, parce que pour nous, c'était plus... Depuis le début, on travaille plutôt sur des économies de charge plutôt que d'augmenter le chiffre. C'est-à-dire que vouloir faire 6000 litres de lait avec nos vaches ici, ça aurait voulu dire tout acheter, l'alimentation ou les trois quarts. Alors que là, on était plutôt sur le fait que la production nous coûte peu. Et donc, chaque litre de lait qui est vendu, c'est presque du net.
D'ailleurs, je reviens sur quelque chose que vous avez dit il y a quelques minutes maintenant, l'expression chauffeur de tracteur. Il y a derrière, c'est un regard sur l'agriculture assez, Bah, c'est désabusé, quoi. Enfin, c'est, ça veut dire quoi, chauffeur de tracteur ?
Bah, c'est plus dans le sens
où...
Vous
ne voulez pas être chauffeur de tracteur ?
Moi, parce que moi, ça ne me plaît pas, en fait.
Je
l'ai été un peu, et puis dans l'agriculture, voilà, faire un peu de tracteur de temps en temps, c'est bien sympa, mais ce n'est pas ce qui me plaît dans l'agricole. Il y en a, je pense que ça leur plaît. Mais malgré tout, je me rends compte que ce soit des gens qui ont mon âge, ou 10 ans de moins, ou 20 ans de plus, 40 ans cette année. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui en fait sont agriculteurs aujourd'hui, mais qui ne font pas le métier qu'ils souhaitaient. C'est-à-dire que le métier qu'ils font aujourd'hui, c'est ben, faire beaucoup de tracteurs. C'est quand ils voient les animaux, c'est juste pour aller leur mettre une boucle à l'oreille ou leur faire une piqûre, alors que ce qu'ils aimeraient, c'est avoir le temps de leur passer un coup de brosse. C'est au lieu de faire le tour des prairies pour voir si ça pousse bien et tout ça, ben, ils font un tour en quad ou en 4x4 parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller à pied dedans. Et qu'en fait, c'est pas le métier qu'ils ont choisi. C'est le métier que c'est devenu aujourd'hui, mais c'est pas le métier qu'ils ont choisi. Et moi, voilà, c'était soit ça, soit je fais autre chose. C'était, voilà, je voulais faire cette agriculture-là ou faire autre chose. Mais enfin voilà, c'était dans ce sens-là. Et après, c'est peut-être un peu désabusé, mais effectivement, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens où la manière qu'ils ont de pratiquer l'agriculture aujourd'hui n'est pas celle qu'ils ont choisie il y a 20, 30 ou 40 ans. Mais le système économique les a emmenés dans ce sens-là.
Ben on va peut-être pouvoir faire un petit peu de ce tour à pied là, et puis parler de ça justement. Est-ce que, bon, alors, malgré le fait que vous allez arrêter bientôt, est-ce que c'est réussi quand même ce côté-là d'avoir pu faire une exploitation où on n'est pas chauffeur de tracteur et on peut... est-ce que vous avez réussi ce que vous vouliez ?
Ben, en tout cas, on va peut-être plutôt partir de ce côté-là. Ben, je considère qu'on a réussi dans le sens où on est content de la vie qu'on mène, hormis, c'est vrai que Mélanie, l'astreinte de la traite lui pèse, enfin de la traite et des fromages, c'est plutôt moi qui fais la traite, mais cette astreinte-là, dans le quotidien, pèse un peu, mais ça, c'est directement lié à cette activité spécifiquement. Mais après, ça fait 10 ans qu'on est arrivé là. Aujourd'hui, on est propriétaire de notre maison et de notre outil de travail. Si on peut se permettre d'arrêter, c'est parce qu'on en a les moyens, parce que justement, on n'a pas de... justement, on n'a pas de dette. Bon, on peut pas voir les chèvres. Donc, c'est cette grande liberté qu'on a eue aujourd'hui. On a eu la liberté de le construire. On a monté quelque chose qui nous convient. Et aujourd'hui, on a la possibilité de passer à autre chose. Et ça, c'est ce que, justement, quand je m'étais installé avec mes parents, avec les aides à l'installation et tout ça, c'est cette liberté-là que je n'avais plus. C'est-à-dire de dire, ça me plaît, je continue, ça me plaît pas, j'arrête. Cette manière-là de faire ne me plaît pas, et ben j'en cherche une autre. Et c'est cette capacité d'adaptation. Et même, j'irai plus loin dans le sens où, pour moi, le métier de paysan, c'est être en mesure de s'adapter aux éléments. Ben, cette année, il a plu à l'automne, on fait les céréales au printemps. L'herbe est... Voilà, on s'adapte aux conditions, on met pas les animaux dans le même pré parce que cette année est trop humide ou il est trop sec. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le système agricole, notamment avec toutes les primes, subventions et tout ça, c'est une manière de canaliser l'agriculture, mais c'est une manière d'empêcher la capacité d'adaptation de l'agriculteur. Et c'est quelque chose qui est assez insupportable, voilà, quand on fait ce métier-là, justement, toute notre volonté est de nous adapter à des conditions et on nous enlève cette capacité-là. En 10 ans, il y a eu au moins 3 fois où on a pu se mettre devant la table en disant on continue, on arrête, on cherche une solution, on n'en aurait pas trouvé, ben, on aurait peut-être fait autre chose, on aurait peut-être modifié, mais on a pu se poser ces questions-là.
Et les dettes d'avant sont remboursées ?
Les dettes d'avant sont remboursées, on a fini de payer il y a 4 ans.
Et donc, le système de primes de la politique agricole européenne, vous n'êtes pas dedans ?
On n'est pas du tout dedans. Alors, comme je disais, avec mes parents, j'étais bien échaudé. On touchait les aides de la PAC. Moi, j'avais touché la DGA pour m'installer. Et alors, bon, ça, c'est des exemples que beaucoup de monde connaissent, mais je peux toujours citer. Voilà, il y a, par exemple, pour les premiers contrats de prime à l'herbe, on a fait venir des techniciens de la chambre d'agriculture pour dire, bon, ben, est-ce que cette parcelle, précisément, on la met dedans ou pas ? Est-ce que celle-là, on la met ou pas ? Donc, on a été conseillé en disant, ben, celle-là, faut la mettre, celle-là, faut pas la mettre et tout ça. C'était des engagements sur 5 ans. Au bout du compte, 3 ans après, il y a des contrôleurs qui viennent, qui disent « Ah, mais celle-là, fallait pas la mettre. » Ben, nous, on nous a dit qu'il fallait la mettre. « Ah oui, mais fallait pas la mettre. » Donc, du coup, il faut rembourser les 2 années d'avant. Du coup, l'année d'après, ben, on modifie puisque il fallait pas les mettre. Sauf que comme c'était des engagements de 5 ans, on nous dit ben, « Il fallait pas modifier. » Donc, du coup, les 3 années qui suivent, on les touche plus. Donc ça veut dire que dans une gestion d'entreprise, tu pars sur des perspectives de financement, tu fais tes investissements en fonction, ben, tu te retrouves coincé alors que tu es allé voir les personnes dites compétentes pour te conseiller, qui étaient payées pour te conseiller. C'est pareil, moi j'ai touché des aides pour m'installer à condition d'être agriculteur 10 ans. Au bout de 5 ans, je me retrouve planté par la laiterie. J'ai pas une trésorerie qui me permet de rebondir sur autre chose non plus. Et là, il y en a qui me disent, bah, il va falloir rembourser parce que t'as pas tenu tes engagements. Mais quels engagements? Moi, j'ai tenu les miens. Il y en a d'autres qui ont pas tenu les leurs. Mais c'était une évidence pour nous qu'on rentrerait pas dans ce système contraignant. Alors, par contre, effectivement, quand on s'est installé ici, on a demandé le RSA. Parce qu'en gros, étant donné qu'on faisait nos légumes, nos cochons et tout ça, ça nous permettait en gros de vivre sur le RSA et tout l'argent qu'on gagnait, on l'a réinvesti sur la ferme. Donc la première chose qu'on a fait ici, donc on est arrivé avec la caravane, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'étable pour les bêtes. Ensuite, on a fait
une fromagerie. Avant la maison d'habitation.
Avant la maison. On a fait l'étable, on a fait la fromagerie, on a fait la cave. Après, on a fait l'éolienne pour avoir un peu de courant pour sécher les fromages. Et à partir de là, on a pu, ça faisait un an qu'on était sur le terrain, qu'on est arrivé sur le terrain nuque. Là, un an après, on a commencé le terrassement en septembre. Au mois de juillet de l'année d'après, il y a la DSV qui est passée pour contrôler les locaux et qui nous a donné l'agrément pour vendre des fromages sur les marchés. Et à partir de là, on a commencé à gagner un petit peu d'argent, ce qui petit à petit nous a permis de construire la grange pour éviter qu'il pourrisse sous les bâches et tout un tas d'autres choses, le forage et toutes ces choses-là. Enfin, on avait commencé par un captage et ça faisait 5 ans qu'on était installé, enfin 4 ans qu'on était installé, qu'on a pu commencer à construire la maison. Et c'est comme ça qu'on a été 5 ans en caravane. Bon, à la fin, on avait 3 enfants dedans. On a été très soulagés quand on a été dans la maison. Après, le fait est que c'est aussi un choix de vie global. Et comme je disais, quand on n'a pas une pression d'emprunt à rembourser, ces choses-là, on a une tranquillité d'esprit qui fait que déjà, on n'a pas cette tension qui peut nous rendre agressifs, nous rendre tendus et tout ça. C'est si un jour ça ne nous convient pas, on arrête, on va faire autre chose. Si ce choix de vie ne nous convient pas, ben, on vend les 5 vaches et on va loin à HLM et puis on va chercher du boulot à l'usine. À ce moment-là, on savait qu'on avait cette liberté-là et c'est pour ça qu'on a continué. Et après, sur nos choix aussi, c'est des choix globaux. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à gagner 2000 euros par mois parce qu'aujourd'hui, on produit notre viande, nos produits laitiers, nos légumes. On a fait notre installation pour l'électricité. Alors, on n'a pas des 100 et des 1000 d'électricité, mais on a de quoi avoir une machine à laver, de la lumière, regarder un film de temps en temps et ces choses-là. On a notre forage pour l'eau et une eau qui est très bonne. On a une maison qui aujourd'hui, une maison qui est très confortable avec le chauffe-eau solaire, avec le reste au bois. Donc, au bout du compte, toutes ces choses-là, ça fait qu'on a beaucoup moins besoin d'argent. Le fait aussi qu'on soit avec la maison et contre le bâtiment, c'est-à-dire que les enfants ils peuvent dormir le matin pendant qu'on est à la traite, ils peuvent jouer pendant qu'on est à faire autre chose, ils savent qu'on est toujours à côté d'eux, donc ça nous donne une tranquillité aussi, on n'est pas obligé de courir, de partir, de faire garder ou autre, puisqu'on a essayé de trouver un équilibre dans cet ensemble.
Donc on peut décrire un peu l'endroit. Donc là on est dans la partie étable du bâtiment.
Oui.
Donc il y a une partie pour les chèvres, une partie pour les vaches.
Voilà, c'est ça.
Donc là il n'y a que les chèvres qui sont dedans, les vaches sont dehors.
Oui, on vient déjà de sortir les vaches et puis les chèvres on va pas tarder à les sortir, mais elles ont tendance à... Voilà, les chèvres une fois qu'elles ont mangé, après elles font des bêtises. Donc du coup on les sort un peu plus tard, comme ça elles ont moins le temps de faire des bêtises. Donc ça, c'est la première partie qui a été construite. Donc il y a 7 places de vaches et une quinzaine de places pour les chèvres. Et donc contre cette partie-là, enfin au bout de cette partie-là, on va dire, il y a la partie fromagerie et ensuite la cave. Et sinon, face à la tête des vaches, il y a la partie grange et ensuite la partie habitation. Ce qui fait que... Euh, On peut passer directement de l'habitation à l'étable en chaussons l'hiver quand il y a de la neige. S'il faut aller voir un village ou quoi, ça permet de... Enfin, ça nous donne ce confort-là. Et puis l'autre chose, c'est que...
C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de caméra pour surveiller les villages.
Ben non, voilà. Si jamais il y a une vache qui gueule, on l'entend. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, jusqu'à il y a 2 ans, on était à 5 vaches et une quinzaine de chèvres. Et on touche encore le RSA puisque depuis le début, on avait prévu qu'il nous faudrait plutôt autour de 7 vaches. Et sauf qu'on n'avait pas la surface suffisante pour les nourrir. Et là, il y a 2 ans, en prévision de terrains qui allaient se libérer, des terrains... Enfin, c'est une histoire compliquée, mais on va dire que c'était des terrains sectionaux qui étaient soumis au régime forestier. On avait les accords de tout le monde et un nouvel arrêté préfectoral qui soumettait au régime agricole où on était censé pouvoir les louer. Donc nous, la perspective de terrains supplémentaires qui sont à peu près à 10 mètres du bâtiment, parcelle de 23 hectares, ça nous a permis de dire « bon, c'est bon, on va passer le cap de se dire « on arrête le RSA puisque on va pouvoir prendre des animaux en plus ». Donc il y a 2 ans, on a acheté 2 vaches de plus. Sauf que les terrains, ça n'a pas été possible pour des problèmes avec la municipalité. Donc on a été obligé d'acheter du foin en plus, puisqu'on a les vaches en plus et on n'a pas les surfaces qui correspondent. Et le foin qu'on a acheté, par contre, c'est en grosse botte. Mais sinon, voilà, nous, on fait tout en petites bottes et avec du vieux matériel qui suffit amplement pour les surfaces qu'on a.
Là, on visite, Radio va se faire visite. Je crois que c'est assez fréquent. Vous faites visiter cette ferme, non ? Dans différents... Vous n'êtes pas les premiers à faire une visite ?
Oui, il y a eu d'autres visites, genre de l'Ardéar ou des choses comme ça. Effectivement, on est dans un système assez atypique. Et c'est vrai que ça pose pas mal de questions de se dire, effectivement, il y a une autre agriculture possible. Et c'est vraiment toujours... Je suis bavard, donc c'est facile de me faire parler, mais du coup, c'est vrai que j'aime...
Ça tombe bien, c'est la radio. Ouais.
Voilà. Vous n'arrivez pas à en placer une. Mais du coup, c'est vrai que voilà, ce que j'ai vécu dans l'agricole, dans un système plus conventionnel, je veux dire, ça a été assez dur. Et du coup, j'y croyais qu'à moitié quand on est parti là. Enfin, si, on y croyait forcément un peu, sinon on se serait pas lancé. Mais c'est aussi de voir d'autres exemples, de se dire qu'il y a une autre agriculture de possible. Et même si nous, on va partir d'ici pour faire autre chose ailleurs, malgré tout, il y a des choses possibles. Le tout, c'est vraiment de... Voilà, c'est de le réfléchir, de le concevoir, de bien s'informer sur les réalités actuelles pour trouver... En fait, c'est trouver sa niche et son équilibre dans le système actuel. Mais du coup, je me dis que c'est bien de montrer ça parce que c'est dire aux autres, vous aussi, vous pouvez trouver une solution pour vivre de ce que vous avez envie de faire et de la manière dont vous avez envie de le faire. Il faut juste se casser un peu la tête et puis essayer de trouver des solutions, quoi.
Vous avez dit qu'à plusieurs reprises, vous avez pu vous mettre autour de la table à décider si vous arrêtiez ou si vous continuiez. Et donc là, vous arrêtez. Pourquoi ?
Là, c'est directement lié au problème avec la municipalité, dans le sens où nous, sans perspective fiable sur les terrains supplémentaires, ça fait 10 ans qu'on se bat pour mettre en place cette activité-là. Et là, on arrivait un peu à l'objectif, c'est-à-dire qu'on aura assez de terrain pour nourrir nos animaux dans de bonnes conditions. Et là, de voir que tout est fait contre ça... Plus, c'est un ensemble de choses qui finissent par nous être insupportables, de malveillance, de mauvaise foi, de mensonges et de calomnies, qu'au bout de 10 ans, quasiment 10 ans qu'on vend du fromage, qu'il y ait encore des personnes qui soient à remettre en cause la légalité de nos constructions, qui soient à remettre en cause la légalité de notre local pour transformer les fromages, que la municipalité, depuis les dernières élections, ait cessé l'entretien de la piste communale qui mène jusque-là, sauf qu'elle a l'obligation de le faire. Toutes ces choses-là finissent par nous être insupportables dans le sens où nous, ce qu'on cherche, c'est une qualité de vie. Donc voilà, on a trouvé un équilibre au niveau économique, au niveau technique, au niveau humain ici. Tout ça est remis en cause. Donc on, voilà, notre qualité de vie, on va aller la chercher ailleurs si c'est pas possible ici. Et après, il y a aussi par rapport au fait que Mélanie, l'astreinte de la traite, enfin l'astreinte de l'activité fromagère lui pèse. Donc on était à réfléchir quelle autre activité on pourrait faire ici. Mais donc c'est quelque chose qui demande de l'énergie. Donc vu qu'ici, la vente des produits locaux est interdite par la commune dans certaines conditions, on préfère mettre notre énergie, aller faire un autre projet ailleurs plutôt qu'ici.
Vous êtes toujours sur Radio Vassivière et vous écoutez Pascal Durand dans Histoire de Terre.
La majeure partie des agriculteurs étant dépendants des primes et subventions, en fait, par ce biais-là, on leur fait faire ce qu'on souhaite. Du coup, ils sont les objets des politiques agricoles. Et, alors que quand, justement, on n'est pas dépendant des primes et subventions, on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Par exemple, comme je disais... comme les histoires de primes à l'herbe ou autres, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a quelques années, on définissait ça c'est prairie naturelle, ça c'est prairie artificielle, ça c'est céréales, et puis c'était des engagements sur 5 ans. Et si en cours de route, il y avait une année un peu sèche, il y avait les prairies qui étaient abîmées, on se disait l'année prochaine, je fais 3 hectares de plus. Et c'était pas forcément possible si ce n'était pas prévu au début. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça enlève cette capacité d'adaptation. Et le levier, c'est toujours les primes et subventions. C'est-à-dire que si tu ne tiens pas tes engagements, tu n'as pas droit à ça. Donc effectivement, le levier de la politique agricole, c'est les primes et subventions, puisque la majorité en sont dépendants.
On peut jeter un petit coup d'œil à la fromagerie ?
On peut s'avancer.
Voir la fromagerie,
faire les yaourts.
Il y a un autocollant radio à 6h. Le dernier autocollant, si vous ne l'avez pas, vous pouvez appeler à la radio. Très joli, jaune et bleu. Toc, toc, toc.
Là, c'est possible qu'elles sont en train de remplir ces yaourts, donc on ne va peut-être pas pouvoir la voir.
Ouais.
Mais donc, le principe, c'est qu'il y a un premier sas où il y a le tank à l'aise qui permet de... Ça fait que 3 ans qu'on l'a, puisqu'au début, on n'avait pas assez de courant. On n'avait que l'éolienne et là on a rajouté pas mal de panneaux solaires, ce qui nous permet d'avoir plus de courant, du coup d'avoir un tank à l'aise, ce qui fait qu'au lieu de faire le fromage tous les jours, ça permet de le faire tous les 2 ou 3 jours selon les périodes. Donc lui, donc, il stocke le lait à 4 degrés. Ensuite, il y a une deuxième petite pièce où il y a la cuve de transformation, qui est un ancien tank à lait qu'on a modifié pour faire une cuve de transformation. On chauffe dessous avec le gaz.
Une cuve de transformation pour faire
pour les faire tomes. Voilà, les tomes, tout ce qui est pâte chauffée, on va dire. Puis à côté, on voit aussi les bidons avec les filtres à lait. Et derrière, ensuite, il y a la fromagerie qui n'est pas très grande. C'était une caisse de camion isotherme. Et où dedans, il y a toute la partie lavage. Il y a la partie aussi, une petite étuve pour faire cailler le lait, pour faire les lactiques de chèvre et pour faire les yaourts aussi. Puis ensuite, les tables d'égouttage. Et sur le côté à droite, il y a la cave à fromage où il y a les fromages qui affinent. Donc voilà. Sinon, oui, aussi au niveau des fromages, nous on a misé sur une gamme de produits très très large où l'idée c'était de vendre un maximum localement. Par rapport à d'autres personnes qui misent sur un type de transformation, ce qui fait qu'ils gagnent du temps à transformation, mais ils ont beaucoup de temps de commercialisation. Là, Mélanie a fait. Si on compte les vaches et les chèvres, il y a peut-être pas loin de 10 sortes de fromages, plus lait, yaourt et fromage blanc. Donc tout ce qui est produit frais, lait, yaourt, fromage blanc, normalement c'est que sur commande, parce que nous on ne voulait pas faire des produits pour les gaspiller. Donc ceux qui en veulent, il faut qu'ils pensent à les commander. Et après, au niveau des autres fromages, on a beaucoup de clients réguliers, même voire de commandes régulières, où ça nous permet de... Comment dire ? On met un morceau de fromage toutes les semaines et des fois ça va être du bleu, des fois de la tome, des fois du type abondance, des fois du type creusois, des fois de la chèvre. Et ça permet que les consommateurs ne se lassent pas des produits parce qu'il y a une variété dans les produits. Et ce qui nous permet de vendre la totalité de notre production dans un rayon de 15 km.
Comment vous vendez ? Les gens viennent chercher ici ? Vous avez du temps de livraison ?
Très peu viennent ici. Déjà, on n'a pas marqué qu'il y avait des fromages ici. Donc, ceux qui viennent, c'est ceux qui savent. Et là, comme il y a 2 km de piste pour arriver là, ceux qui viennent, c'est parce qu'ils en ont vraiment envie, ils en prennent un bon morceau. Et après, sinon, donc, on a un point de livraison où il y a une association, Le Pain Levé, qui fait du pain le mercredi et le dimanche. Donc, sur place, on a un frigo. Donc les gens nous passent commande, on dépose la commande et une fois par mois, ils ont leur facture. Donc cela, ça fonctionne vraiment bien avec une variété de produits, vu que c'est régulier. Et après, sinon, à Gensoux, il y a le local de la bascule qui va bientôt être transféré à la Renouée, où là, ça a pris le relais du marché d'été. Alors d'autres sauraient mieux expliquer que moi, mais en fait, c'est un intermédiaire entre une boutique de producteurs et un marché d'hiver qui va encore s'étoffer en produits. Et donc voilà, donc c'est autant des commandes que des choses régulières ou irrégulières. Mais ça a l'avantage d'être... Donc l'été, c'est un marché l'été, c'est sur la place du marché. Et l'hiver, c'est la boutique. Et avec le climat qu'on a, c'est pas négligeable d'être à l'abri l'hiver. Et l'autre chose, c'est que c'est des horaires qui sont pas mal pour nous, puisque c'est en fin de journée. Donc c'est plus pratique dans l'organisation du travail plutôt que d'être en... Enfin ouais, voilà.
Vous ne faites pas beaucoup de marché le matin dans l'année ?
On n'en fait aucun et même justement c'est un peu ce qui était rageant aussi dans l'idée de manquer de surface, c'est que ça fait déjà plusieurs années qu'on manque de produits. De par la mauvaise qualité des terrains et le manque de surface, en fait, on refuse régulièrement. On a des demandes pour faire des marchés, pour des fêtes l'été, des choses comme ça. Et on refuse parce qu'on n'a pas assez de produits. Et même, ça arrive régulièrement qu'il y ait des périodes où si les gens demandent 400 grammes de fromage, ben on leur en met 200 en disant ben, il en faut pour tout le monde, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc en tout cas, sur la commercialisation, on a plutôt tendance à manquer de produits, puisque c'est plus sur la production qu'on est un peu juste, quoi.
Et voilà. Vous vendez aussi à des collectivités, genre cantine scolaire ou restaurant, des choses comme ça ?
Oui, ben on vend régulièrement à la cantine de Faux. Alors il y a même eu une époque où on vendait au centre de loisirs à Gensoux, mais voilà, il y a plein de choses qui ont changé. Mais voilà, on vend à la cantine de Faux, on vend très régulièrement au PNR quand ils ont des repas, des choses comme ça, où ils veulent justement des produits locaux. Et après, voilà, quelques restaurants, plus de manière saisonnière, parce qu'après, la distance fait que pour l'hiver, c'est vrai que c'est moins pertinent. Après, il y a d'autres cantines, comme celle de Saint-Thierry-la-Montagne, qui était vraiment intéressante. Enfin, voilà, très intéressée, et c'est vrai que c'était, voilà, cantinière appréciée, disait que les enfants aussi. Mais c'était des quantités qui justifiaient pas de faire ce déplacement-là, et donc on a préféré arrêter.
C'est bien souvent le problème pour les producteurs qui veulent vendre localement, je crois, d'avoir des quantités trop petites et du coup,
voilà,
problème de rentabilité par rapport au carburant pour y aller, tout simplement.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment faut trouver des modes de commercialisation qui soient suffisamment intéressants pour ça.
Ce serait quoi la solution si on imaginait pouvoir... comment dire faire bénéficier sur un territoire plus large, ce serait qu'il y ait une organisation, un camion qui prenne les produits de tout le monde et les distribue ou...
Je regarde à travers ma manière de travailler, forcément. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire, ben, si nous, on manque de fromage ici et qu'il y a quelqu'un qui veut s'installer à 15 ou 20 km d'ici, après il y aura un treillis de petits producteurs un peu partout qui peuvent satisfaire les besoins locaux. Moi je le verrais plutôt de cette manière là qu'un véhicule supplémentaire, parce que nous, pourquoi on s'en sort financièrement aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce que on produit, on transforme, on vend. Et c'est simple, par exemple le lait de vache est payé 30 centimes d'euros au producteur pour les laiteries, à quelque chose près, hein. Et nous, on a une valorisation quasiment à 1,50€ du litre. Donc la différence, elle est pour nous. Dès qu'on commence à mettre des intermédiaires, des services entre, ça complique et ça rend souvent bien impossible. Et comme nous, là, les fromages, on les vend, les tomes, par exemple, on les vend autour de 16€ le kilo. Si, par exemple, on veut les vendre dans des épiceries, alors, soit faut qu'on leur vende à 10€ le kilo pour qu'eux les laissent à 16€ le kilo. Mais dans ces cas-là, nous, il va nous falloir 3 vaches de plus. Donc, il va falloir un tracteur plus gros et plus de surface et ainsi de suite. Et puis, on ne pourra plus traire à la main. Donc, il faudra acheter la machine et ainsi de suite. Ou alors, ça veut dire qu'on leur fait quand même à 16€ le kilo. Et eux, ils vont le vendre à 20-25€ le kilo. Donc, pour qui vont le vendre ? Alors, c'est vrai que c'est bien de faire des produits de qualité pour des gens qui en ont les moyens. mais les autres, ils ont aussi le droit de se nourrir. Et du coup, c'est pour ça que moi, je défends la vente directe et que les épiceries ont aussi leur rôle. Après, le système de la bascule, je pense qu'il y a encore un équilibre à trouver, mais c'est voilà, plus type boutique de producteurs ou ces choses-là, où il y a aussi une implication des producteurs dedans. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. Sans dire que le reste n'est pas possible, c'est juste que c'est lié à des systèmes différents, c'est-à-dire souvent des structures plus grosses, souvent plus endettées, qui vont faire beaucoup plus de quantité et faire marcher un système beaucoup plus lourd, beaucoup plus fragile.
Vous avez l'air d'avoir une pratique agricole qui est, en tout cas ce que vous dites, dans un respect de l'environnement, des bêtes et tout ça. Et je crois que vous n'avez pas le label bio.
Non.
Comment ça se fait ?
On n'en a pas besoin. En fait, on n'a pas besoin. Les gens qui nous prennent nos produits savent comment on travaille. On ne voit pas l'intérêt de payer quelqu'un pour venir voir ce qu'on fait. Nous, on a toujours dit, s'il y en a qui veulent savoir comment on travaille, ben, ils peuvent venir, on peut leur sortir les factures, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on produit, on produit beaucoup de choses, on n'achète pas grand-chose, donc c'est possible de voir comme ça. Nous, ça ne nous rajouterait rien d'être certifié en bio. Et après, au niveau de nos pratiques, ben, par exemple, voilà, de temps en temps, je donne un peu de tourteau aux vaches, ben, c'est du tourteau bio. Les semences de prairie, c'est des semences bio. Les minéraux, c'est du bio aussi. Je dirais, les seules entorses qu'il peut y avoir, c'est que, par exemple, là, pour acheter du foin, ben, ça me permet d'acheter chez des gens que je sais, par exemple, qui n'ont pas mis d'engrais depuis 3 ou 4 ans sur ces parcelles-là et que... voilà, ils sont pas certifiés bio, mais je sais que, parce que c'est des personnes que je connais, je sais qu'il n'y a pas eu d'engrais, et ça me permet d'acheter du foin localement en sachant à qui je l'achète, plutôt que ben, voilà, le foin bio, ici on n'en trouve pas beaucoup, donc s'il faut faire venir de la luzerne de 400 km, ça nous convient un peu moins. Donc ça nous permet, nous, de nous adapter plus facilement. Encore une fois, ça nous permet de rester adaptables. Tout en ayant quand même cette ligne-là de fonctionnement. Quoi. Pour en revenir au terrain, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de... On n'a pas beaucoup de terrain en propriété. Et après, on a beaucoup de terrains qui sont en convention avec le Conservatoire des espaces naturels.
C'est-à-dire pas beaucoup de terrain en propriété, c'est combien d'hectares ?
Aujourd'hui, on a 12 hectares. Et sur les 12 hectares, en gros, il y en a autour de 7 hectares de prairies qui sont labourables ou fauchables. Et sinon, après, les autres terrains qu'on a en propriété ou tous les autres terrains qu'il y a en convention avec le Conservatoire des espaces naturels, c'est plutôt des anciennes landes, des bruyères, des tourbières, voire des sous-bois. La déprise agricole dans la région, ça va directement vers de la... Ça amène directement à de la forêt. Et du coup, pour le Conservatoire des espaces naturels, ça fait plus un appauvrissement de la faune et de la flore, puisqu'on va perdre certaines espèces spécifiques qui sont dans les bruyères, qui sont dans les tourbières, parce que les arbres assèchent un peu les tourbières ou ces choses-là. Et du coup, eux, souvent, ils font les premiers gros travaux de réouverture, de revenir à un état un peu plus ouvert, c'est-à-dire en faisant du bûcheronnage, éventuellement du broyage ou des choses comme ça. Des fois, ils font les clôtures aussi. Et après, ils ont besoin d'animaux pour faire la pâture, pour faire l'entretien, pour que ces zones-là elles restent ouvertes, pour pas que la friche y gagne. Et donc, on est très contents de travailler avec eux dans ce sens-là, parce que eux, ils sont contents d'avoir des animaux pour faire l'entretien, parce que sinon, il faudrait payer des gens à la débroussailleuse pour que les espaces restent ouverts, pour éviter que certaines plantes soient étouffées. Et nous, ça nous permet d'avoir des terrains qui sont pas de qualité fantastique, mais qui nous coûtent rien, puisque en fait, c'est le gestionnaire qui s'en occupe. Et nous, c'est ce qui nous permet de trouver notre équilibre, malgré notre petite surface. Et c'est aussi pour ça que le choix de la race d'animaux, c'est aussi pour ça que le choix de miser plus sur des économies de charge plutôt que des augmentations de production se justifie d'autant plus dans des milieux, on va dire, assez difficiles comme ici.
Et alors, donc, qu'est-ce que ça mange des vaches qui produisent du lait ? Est-ce qu'il faut... elles restent toute l'année dehors ? Elles se nourrissent que de... d'herbe et de foin ou faut compléter un petit peu?
Oui, ben en fait, toute la question de trouver l'équilibre, c'est un peu ça. Donc en gros, je dirais par rapport à l'alimentation de base des vaches, puisque l'alimentation de base, c'est soit le foin, soit l'herbe, puisqu'ici, ce n'est pas un silage de maïs ou d'herbe. Mais en gros, l'hiver, elles sont que au foin et je les sors régulièrement où elles vont se dégourdir les jambes, mais on ne peut pas considérer qu'elles mangent dehors. Après, en intersaison, printemps, automne, là, souvent, la nuit, elles ont du foin et la journée, elles vont dehors. Donc, elles arrivent quand même à trouver soit des petites pousses d'herbe, soit de l'herbe un peu dure, mais ça leur permet de trouver un équilibre comme ça. Et l'été, par contre, elles sont dehors tout le temps. Donc, je les rentre juste pour la traite matin et soir et puis elles sont ressorties le jour et la nuit. Et en gros, nous, vu qu'on a très peu de bons terrains, les bons terrains servent principalement pour faire les stocks de foin. Donc après, printemps, elles vont être un peu les landes, les sous-bois. L'hiver, enfin, on va dire juin, juillet, elles sont plutôt dans les tourbières. Et souvent, à partir de fin juillet, l'herbe commence à être dure dans les tourbières, donc on les ramène un peu plus sur des zones un peu plus sèches. Et après, à l'automne, si on a fauché trop tard, les regains ne sont pas bons à faucher à temps. Donc du coup, ça peut arriver que je les mette dans les repousses d'herbe à l'automne. Et là, elles peuvent avoir le droit d'aller un peu manger de la bonne herbe. Nous, on ne cherche pas à augmenter la production des animaux, parce qu'avec une ration de base qui est d'aussi mauvaise qualité que ce qu'on leur donne, ça demanderait de mettre des kilos et des kilos de granulés, de céréales, de concentrés en plus, qui seraient très coûteux pour chaque litre de lait supplémentaire. Donc on est plus dans une recherche d'essayer de chercher à compenser l'équilibre, c'est-à-dire que quand c'est de l'herbe tendre au printemps, on va plutôt compléter avec des céréales pour apporter un peu d'énergie. Quand elles vont être dans les tourbières où l'herbe est un peu dure, on va donner plutôt un peu de tourteau pour compenser un peu en protéines. Et du coup, on est plus dans une recherche d'équilibre comme ça, ou si par exemple il va y avoir une période, on sait que pendant un mois, elles ne vont pas avoir grand-chose à manger, donc là, par exemple, on donnera un petit peu plus de concentré, en se disant que ça permet d'attendre un mois pour que la prochaine parcelle ait suffisamment d'herbe pour éviter qu'elle baisse et qu'elle ne puisse pas remonter après. Donc on est plus dans chercher un optimum qu'un maximum.
C'était ma question, c'est juste sur les prairies, comment vous les avez cultivées, donc sans produits chimiques, sans produits, sans pesticides, etc. Mais vous avez mis quand même quelque chose dans votre façon de faire?
En fait, déjà, on est sur des terrains qui, le fait de les travailler, ça les stimule bien. Sur des vieilles prairies avec une herbe très rase, en général, je fais labourer, je fais une année ou deux de céréales. Et donc, ça aère un peu le terrain, ça relance l'activité et après, je ressème en prairie.
Sans ajout autre?
Il y a le fumier. Le fumier de l'hiver qui du coup heureusement qu'il y a le fumier pour les prairies. Et après on met pas mal de légumineuses dans les prairies. Alors au début j'avais mis pas mal de calcaire broyé, donc c'est vrai que ça aide pas mal la mise en place, mais ça fait partie des questionnements où j'ai aucune certitude, mais juste des questionnements. Effectivement, ça permet d'augmenter la production, c'est une bonne solution d'amener du calcium. Mais
c'est un achat,
c'est aussi c'est des camions remorques qui viennent de très loin. Alors est-ce qu'on n'a pas d'autres possibilités de miser, peut-être prendre un peu plus de surface extensive, ou alors peut-être stimuler l'activité du sol au lieu de la stimuler en mettant du calcium, faire des herçages un peu plus agressifs, je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui se sont posé des questions avec des genres de mini sous-soleuses, des choses comme ça.
Un herçage plus agressif, c'est un outil avec des dents qui vont l'aérer.
Qui gratte la surface, ça permet d'enlever la mousse, ça permet d'aérer la surface, puisqu'en fait toute la question c'est d'arriver à avoir un sol qui est suffisamment actif et dynamique, ce qui favorise les plantes. Et du coup, il y a plusieurs solutions pour stimuler le sol. Effectivement, d'augmenter le pH, ça devient plus propice de l'aérer. Si on ne fait pas un labour à 50 cm de profondeur, on aère les couches qui sont actives. De mettre du fumier, c'est pareil, là, ça apporte de l'aliment pour les micro-organismes, on va dire. Donc voilà, c'est un peu se dire, il n'y a pas d'évidence non plus. Il y a beaucoup de choses, on sait qui marchent.
C'est du tâtonnement.
Mais après, c'est toujours du tâtonnement. Et qu'effectivement, aujourd'hui, on ne regarde pas forcément la terre de la même manière qu'il y a 20 ans ou 40 ans. Et on n'a pas non plus les mêmes outils qu'il y a 100 ans. Donc du coup, on peut faire des choses aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a 100 ans. Mais par contre, il y a des choses qu'on faisait il y a 40 qu'on se rend compte que ce n'était pas forcément la meilleure solution non plus. Donc il faut arriver à faire un amalgame de tout ça, quoi.
Et du coup, alors vous avez mis à peu près une dizaine d'années à construire cette ferme, votre outil de travail, à rembourser les dettes antérieures. Maintenant, vous arrivez à quelque chose de stable. Mmh. Là, vous allez partir. Et vous seriez prêt à recommencer ?
Je pense qu'on n'aurait pas l'énergie pour recommencer comme ici, c'est-à-dire d'un terrain nu, sans rien. Mais la différence aussi, c'est que quand on a commencé il y a 10 ans, on n'avait pas un centime en poche, on avait 10 ans de moins, il y avait des conditions. Et aujourd'hui,
pas d'enfants.
Enfin, s'il y en avait une au début, et assez vite, il y en a eu 4. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas le même... le contexte n'est pas le même. C'est-à-dire que... Oui, et puis il y avait les dettes aussi pour l'achat des terrains à ce moment-là. C'est que là, la vente de la ferme, malgré tout, ça fait un point de départ pour redémarrer autre chose. L'esprit reste quand même le même dans le sens où on veut rester indépendant sur notre activité. Si au début, le temps de mettre en place une activité économique, on peut pas, ça ne se met pas en place tout de suite. Là, par contre, ce sera peut-être plus faire un travail de salarié ou autre. Parce que l'élevage laitier avec la traite matin et soir, c'est aussi pour ça qu'on demandait le RSA. C'est parce que ce n'était pas compatible avec une activité de salarié extérieur. Là, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est-à-dire qu'avec le petit pécule, on espère quand même pouvoir avoir un outil en partie commencé avec un peu des constructions et que le contexte et l'activité n'étant pas la même, ça permettrait de s'engager sur d'autres manières, quoi.
Et si c'était à refaire dans ces 10 années, est-ce que vous avez fait des erreurs? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez dû faire autrement, que vous n'auriez pas dû faire sur toute cette construction?
Oui, il y en a forcément un certain nombre d'erreurs. Par exemple, voilà, au début, on a fait un forage qui était... je sais pas si c'est le bon exemple, parce que, par exemple, le premier captage d'eau, on l'a fait à 2 mètres de profondeur avec mon tracteur qui avait 50 ans et puis une petite pelle rétro à mon père que j'avais mis derrière. On a fonctionné pendant 6 ans comme ça, mais l'eau n'était pas de qualité super, donc ça nous demandait pas mal de frais de filtration. On avait tendance à manquer d'eau, ce qui fait qu'on a gaspillé aussi pas mal de fromage parce qu'à ce moment-là, comme il n'y avait pas le temps qu'à l'air, on refroidissait le lait en faisant couler de l'eau dessus. Mais du coup, les fromages, dans certaines périodes, ils n'étaient pas bons au goût, même s'ils étaient bons aux analyses. Donc voilà, il y a eu des choses comme ça qui nous ont compliqué la vie. Et du coup, à la sortie, on a fait un forage avec une pompe solaire immergée, quelque chose qui est très fiable. Mais sauf que, déjà, on ne le savait pas. Et l'autre chose, c'est qu'en plus, on n'aurait pas eu les moyens de faire un forage il y a 10 ans. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on a fait aussi en fonction des moyens, des connaissances qu'on avait à ce moment-là. Donc effectivement, c'est des erreurs, mais je pense qu'on n'aurait pas pu faire autrement.
Voilà, après, il y a un petit cochon.
Ouais, il y en a 3. Il y en a 3. Pour prendre le petit lait des fromages. Voilà, le petit lait est considéré comme un produit très polluant, alors que ça engraisse bien les cochons. Donc c'est comme aussi dans ce qu'on expliquait tout à l'heure de recherche d'équilibre. Nous, on a du petit lait, donc on le donne aux cochons, ce qui évite d'avoir besoin d'une station d'épuration spécifique à l'activité fromagère. Et y a des copains qui sont paysans boulangers qui font leur farine, du coup eux, ils nous filent du son pour donner aux cochons. Donc il y a un cochon pour nous, un cochon pour ceux qui filent le son, et le troisième c'est pour celui qui tue les autres. Donc du coup voilà, ça fait que ça nous fait du cochon pour
3 foyers.
Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent comme ça, comme le pain, voilà, le fromage en échange du pain ou ces choses-là, ce qui fait que voilà, c'est un équilibre qui est relativement confortable. Donc comme je disais, on n'a pas pu construire à côté de la villate et c'était pas pertinent par rapport au terrain qui était disponible, qu'on n'a pas pu trouver à acheter ou échanger sur la villate. Et c'est vrai que c'était un gros défi de se dire qu'on n'allait pas être accordé au réseau d'eau et d'électricité. Alors comme je précisais bien, c'était pas notre idée de début, même si voilà, on est contre le nucléaire comme pas mal de monde. Se dire on va faire des produits laitiers sans être accordé au réseau électrique et au réseau d'eau, c'était pas quelque chose qui était une évidence pour nous. Mais quand on s'est dit, si on veut construire sur nos terrains là-bas, qui sont à 500 mètres du village, qu'il faut traverser plusieurs propriétés, qu'il y a des dizaines de milliers d'euros à y mettre, cet argent-là, déjà, on ne l'a pas. Et en plus, on préférait le mettre pour ne pas être raccordé au réseau. Et c'est vrai que c'est un petit défi qu'on s'est jeté à ce moment-là. Mais ce n'était pas une évidence de premier abord. Et le fait d'être dans un coin paumé comme ici, ça ne nous déplaît pas, c'est sûr, même si c'est assez froid parce qu'on est près des tourbières, parce qu'on n'avait pas d'autre endroit accessible par des chemins qui soient aussi central. Si ça s'est fait là, c'est aussi parce qu'il n'a pas été possible de le faire à proximité du hameau, puisqu'on est quand même allé voir un certain nombre de personnes pour le faire à côté du hameau, et ça n'a pas été possible. Donc, en fait, on s'est mis là où personne ne voulait se mettre, et ça nous a permis de faire notre activité comme ça. Mais ce n'était pas une évidence de premier abord, puisque...
Ni un choix idéologique, quoi.
Voilà, ni un choix idéologique. Même si, effectivement, on s'est posé la question parce que ça nous convenait, ce n'était pas le point de départ. C'était une conséquence de la réalité, une adaptation à cette réalité-là.
Il y avait quoi comme occupation des sols ici pour l'IGN? On est au Peu du Tour, enfin c'est le nom, oui, que vous avez gardé, donc oui, c'était quand même répertorié. Et vous avez acheté à des gens, il y avait des gens qui faisaient quelque chose ici. C'était quoi le passé de ces terres-là?
Sur le hameau de la Villatte, il y avait, si on remonte dans les années 70, il y avait 3 fermes. Si on remonte avant, il y en avait plus, mais en gros, il y avait 3 fermes. Et en gros, dans les années 80, il y a la famille de Denis, les parents de Denis qui ont pris leur retraite. Et à ce moment-là, ils ont fait un partage. En gros, ils en ont gardé un tiers plus les bâtiments et la maison, un tiers pour une des filles et un tiers pour l'autre fille. Et donc, il y a une des filles qui était installée de l'autre côté de Faux-la-Montagne. Et donc, la partie qu'elle avait eu en héritage, elle mettait des moutons dessus. Et au début, elle faisait du foin, donc, dont les parties et les terrains qu'on a achetés. Donc, c'est à cette fille de Denis Donc voilà, au début elle faisait les foins et puis après avec le temps elle y mettait surtout les brebis l'été. Donc c'était, on va dire, revenu en prairie naturelle, mis à part une ou deux parcelles qui étaient un peu plus en train de s'enfricher, les parcelles les moins intéressantes, on va dire.
Et quand vous êtes arrivé, il n'y avait plus de moutons depuis déjà plusieurs années.
Ça devait faire 3 ans, je crois. D'accord. Je crois que ça faisait 3 ans que les terres n'étaient pas exploitées, ouais. Enfin qu'elles n'étaient pas pâturées. Mais en tout cas, voilà, depuis le milieu des années 80, en tout cas, il n'y avait plus d'agriculteurs sur la Villatte. Et il y avait, voilà, il y avait ces brebis qui venaient sur la partie qu'on a achetée, qui sont venues jusque, voilà, jusque quasiment... Ouais.
On peut peut-être, il peut y avoir des auditeurs sur le site internet qui sont d'une toute autre région. On est dans une des régions les moins chères, j'imagine, à l'hectare ici.
Oui, c'est vraiment pas cher. Après, nous, on l'a acheté cher.
Parce que c'est froid, parce que c'est humide. Parce que...
Voilà, c'est froid, humide, il n'y a pas grand monde. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un gros potentiel agricole. Tout ça fait que... Et puis une grosse... Enfin, on va dire... une grosse exode, une grosse déprise. Parce qu'on est... je crois que sur l'ensemble du plateau de 1000 vaches, on est à 10 habitants au kilomètre carré. Sur la commune, on est autour de 3 habitants au kilomètre carré. Avec, je ne saurais pas dire, vous savez sûrement mieux que moi, la proportion de forêt, mais une grosse proportion de forêt en comptant ce qui est du taillis et tout ça. Mais nous, par contre, c'est vrai qu'on a acheté les terrains chers dans le sens où, la propriétaire en demandait cher pour l'époque, puisque c'était autour de 2000 euros l'hectare, alors que les tarifs sont plutôt, on va dire, dans la fourchette 1000-1500 euros l'hectare, avec les tourbières qui peuvent être entre 600 et 800 euros l'hectare. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand il y a eu ce lot de terrain d'une douzaine d'hectares à vendre, la question s'est posée, c'est soit on les achète à ce prix-là, soit on cherche, bon il aurait fallu que la vendeuse soit d'accord, mais soit on cherche à faire baisser le prix, et à ce moment-là, donc on a vu les personnes là s'affairer, et on leur a dit, mais si on fait baisser le prix et qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, par exemple, des gens qui ont déjà 50 vaches ou 100 vaches qui veulent s'agrandir. Je dis, si moi, je vous présente mon projet en disant, voilà, mon objectif, c'est 7 vaches, 15 chèvres et des produits laitiers, et qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai 80 vaches, il faut que j'augmente mon troupeau. Je dis, vous n'allez pas me garantir que c'est moi qui aurai les terrains si vous avez le choix, parce que vous avez privilégié ce que vous connaissez et vous allez vous dire que mon projet n'est pas forcément fiable, sécurisant selon vos critères, d'autant plus que j'avais déjà touché les aides à l'installation, je ne pouvais pas redemander et ces choses-là. Alors il me dit, oui, effectivement, s'il y a plusieurs candidats, je ne peux pas vous garantir que ce sera vous parce que votre projet est atypique, on n'a pas de recul, on n'a pas de garantie là-dessus, tout ça. Donc j'aurais dit, si je veux avoir une garantie de les avoir, j'ai plus intérêt à les prendre un peu cher parce que je sais que là, je n'aurai pas de concurrent parce que les agriculteurs du coin n'achèteront pas les terrains à ce tarif-là. Il me dit, je ne veux pas vous dire ça parce que je ne veux pas que les tarifs augmentent, mais des terrains, puisqu'ils veulent un peu garantir ça pour pas qu'il y ait de spéculation sur les terrains. Mais en gros, nous, la seule garantie qu'on avait pour avoir les terrains, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'exemples où, quand c'est des fermes avec des bâtiments, c'est rare que ça parte en agrandissement parce que le prix des bâtiments fait un surcoût qui fait que ça ne devient pas intéressant de les prendre en agrandissement. Par contre, quand c'est des terrains nus qui sont plus ou moins pertinents pour la région, ça fait 50 ans que les surfaces des exploitations augmentent et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et du coup, quand il y a des terrains nus, c'est une possibilité d'augmenter ces surfaces pour des agriculteurs déjà installés, quelle qu'en soit leur raison. Et du coup, c'est le système qui est encouragé, qui est connu et reconnu par les instances agricoles actuelles. Donc du coup, nous, on l'a payé cher, mais c'est un peu une garantie pour nous de ne pas se le faire retirer par une commission SAFER ou autre.
Vous êtes resté assez seul, vous n'avez pas travaillé spécialement avec les agriculteurs d'à côté?
Non, mais c'est vrai qu'effectivement, ça par contre, ça je peux considérer que c'est une erreur de ne pas avoir été plus... côtoyer, faire des choses avec les autres agriculteurs, mais malgré tout... On était dans des systèmes très différents, même s'il y en a quelques-uns avec qui, comme Xavier Deschamps à côté, quelqu'un avec qui on aurait pu avoir, avec qui on a très bonne relation, même si on s'est au bout du compte rencontré sur le tard, ou comme avec Pierre Simon, qui a un système complètement différent, mais on se rejoint derrière un rapport à l'agriculture quand même si la manière de le faire est complètement différente. Mais on était déjà dans un système atypique où, par exemple, souvent en agricole, ça passe par de l'échange de matériel, par des choses comme ça. Moi, avec mes tracteurs qui ont 50 ans et 35 chevaux, alors maintenant j'en ai un de 45 chevaux, il n'y a pas la possibilité de faire des échanges de matériel. Il y a un certain nombre de choses qui sont un peu compliquées. Et après, c'est vrai que de construire une ferme en 10 ans avec 4 enfants, en faisant des produits laitiers avec la traite matin et soir 365 jours par an, en fait, on reçoit pas mal de monde à la maison, mais c'est vrai qu'on ne va pas voir les autres, qu'ils soient agriculteurs ou non.
Il y avait quand même les sorties balles.
Ah, sauf les balles, ah, ça. Voilà, des fois, les nuits étaient courtes pour la traite le lendemain matin, mais ça, c'est l'exception. Donc, pour nous voir, il fallait aller vous balle.
Vous venez d'entendre Pascal Durand, éleveur au Peu du Tour sur la commune de Gensioux. Histoire de terre est diffusée un mercredi sur deux à 19h et un samedi sur deux à 11h. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les archives sur notre site radiovassivière.com.